Monster Squad.
Bienvenue dans Monster Squad, l'émission qui dissèque les icônes de l'horreur. Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial qu'on inaugure dans Monster Squad puisqu'il s'agit d'une interview. On va parler de films de monstres et de grosses araignées avec les créateurs d'un film de genre français qui s'appelle Vermine et qui est sorti en salle ce mercredi 27 décembre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur et co-scénariste de Vermine, Sébastien Vanitschek.
Salut, merci pour l'invitation.
Ben merci à toi et bienvenue dans Monster Squad. Et on a également le co-scénariste du film, Florent Bernard.
Bonjour, pareil, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir.
Ben merci à vous d'être avec nous. Et pour m'aider à mener à bien cette interview et à vaincre mon arachnophobie, j'ai avec moi Stéphane Moisakis, le rédacteur chef de Capture Mag. Salut Stéphane.
Salut Marie, merci de m'avoir invité.
Ouais, avec plaisir. Alors, tu reviens quand tu veux. Voilà. Et avant de se lancer dans cette interview, j'en profite pour remercier nos tipeurs, puisque c'est grâce à vous que Monster Squad et que tous nos autres formats existent. Donc pour pérenniser l'émission, on a besoin de vous. Donc rendez-vous sur Tipeee, KissKissBankBank et Patreon, rubrique Capture Mag, pour nous soutenir. Merci beaucoup. Monster Squad. Donc je le disais, Vermine est sorti ce mercredi 27 décembre. On va pitcher le film très rapidement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est passionné d'animaux exotiques et qui ramène une araignée dans son immeuble, dans sa cité. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu. L'araignée s'échappe et développe quelques mécanismes de défense, on va dire, face à cet environnement hostile. Et donc, Caleb et ses amis et les habitants de son immeuble vont devoir s'unir pour essayer de survivre. Est-ce que c'est à peu près ça le pitch ?
C'est carrément ça.
Top. Alors, pourquoi une idée de film de monstres et de film d'araignée ?
Bah, il y avait plein de facteurs. Il y avait vraiment l'envie de dépoussiérer ce genre-là, le natural horror comme on l'appelle, qui est vachement connoté, si on sort de la boucle Les Dents de la Mer, qui est vachement connoté années 50, noir et blanc, des fourmis géantes, un truc qui est devenu petit à petit nanardesque, série B. Il y avait vraiment l'envie de faire un truc ultra réaliste, le plus crédible possible, de le plonger dans un univers qui est vraiment cru. La promesse de divertissement qu'il y avait autour de ça, j'avais envie de faire un premier film qui soit vraiment full popcorn et que les gens aient énormément de plaisir à y aller, qui est un peu de comédie, beaucoup d'horreur et puis même du drame, quoi, de faire un film complet. Et puis après, bien entendu, le propos, ce que ça a ramené, ce que ça racontait sur le délit de sale gueule, quel meilleur monstre que l'araignée pour parler de quelque chose qu'on juge juste à l'apparence et qu'on n'a pas envie d'avoir dans son salon, quoi. Donc un peu tout ça mélangé a vraiment fait que le pitch de Vermine, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah ouais, je vais peut-être mettre un peu plus d'énergie, parce que j'étais dans une période où je faisais beaucoup de courts-métrages. Je me suis dit, celui-là, peut-être, je vais pousser pour écrire un truc plus important, d'où ma rencontre avec Flo pour développer ce scénar, quoi.
Comment vous êtes rencontrés, comment vous avez travaillé ensemble, justement?
C'est l'intermédiaire de Jérôme Niel qui joue dans le film. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'internet par le passé et j'avais travaillé dans une chaîne YouTube qui s'appelait Studio Bagel. C'est comme ça que j'avais rencontré Jérôme. Et c'est rigolo parce que moi, j'ai plus fait de la comédie dans ma vie et j'adore ça d'ailleurs. Et Jérôme, on se connaît bien et il savait que moi, j'étais un gros fan de genre, que je lisais Man Movies, que je regardais Opération Frisson, tout ça, et que je matais beaucoup de films, que j'étais un peu un geekos de ça, avec toujours cette frustration de pas me sentir du tout un réal d'horreur, parce qu'il faut un vrai talent, une vraie énergie que j'ai pas. J'ai ça dans la comédie, ça m'excite, ça me plaît, pas dans le cinéma de genre. Et donc je rencontre Seb, qui en fait, j'avais déjà vu ses courts-métrages que j'avais trouvé cool. Je voyais à peu près ce que je pouvais modestement apporter à son travail et le pitch qui était des araignées enfermées dans un HLM. Et ça, j'avoue que tout de suite, en fait, juste avec ce truc, il avait mis un petit dossier où il avait mis c'était quoi, dans la cité, personne vous entend crier, tu vois, en référence à Alien. Et je fais, ah ok, il m'a chopé avec 2-3 idées fortes. C'est un des meilleurs vendeurs du monde, hein, Seb. En plus d'être un grand metteur en scène, il arrive vraiment à tous les acteurs, vous le diront, il les a tous chopés en tchatch. Et ouais, moi j'ai trouvé le pitch très fort, l'énergie super. Il y avait des acteurs, il a eu quasiment tous les acteurs qu'il avait en tête et déjà il m'en parlait quand on s'est rencontrés. C'était que des gens que je trouvais trop forts, donc tout était très excitant. Et puis bah moi, c'est rare qu'on propose un scénariste du cinéma de genre et encore plus de monstres et encore plus d'araignées. Donc j'ai pas hésité.
Et bah, comment vous avez travaillé, comment vous avez écrit ce film-là? Tout à l'heure, tu parlais là juste de la référence à Alien. Quelles étaient les références que vous aviez ou dont vous vouliez vous éloigner aussi? Parce que c'est pas évident d'écrire un film d'araignée
aujourd'hui. Est-ce que vous voulez refaire Arachnophobie, quoi, par exemple?
Ouais, parce mais
c'est
vrai que c'est le gros film.
Et c'est rigolo. Moi, je l'ai pas.
J'ai scrollé dedans à peine, quoi. Mais c'est marrant, on n'a pas les mêmes rêves du tout. Et c'est ça qui était intéressant dans la rencontre. On bosse pas de la même manière et tout, mais en fait, tout était complémentaire. C'est vrai que je suis allé d'abord, j'ai dit à Jérôme que je voulais bosser avec Flo justement pour ce qu'il allait pouvoir apporter que j'ai pas. Bon, déjà, il a une vraie notion du scénario que j'ai pas. Il a une connaissance vraiment mathématique de comment fonctionne un scénario qui est capital. À un moment donné, on en arrive toujours à un moment à respecter quand même des chapitres et des choses comme ça pour éviter l'ennui, tout simplement, quoi. Son écriture des personnages, et du coup ça a amené des grosses discussions autour de films référence. Il est beaucoup plus cinéphile que moi, et t'as une plus grosse culture de cinéma, même de genre. Moi, je suis débutant là-dedans. Mon problème avec le cinéma est que j'en ai beaucoup plus fait que regardé. J'ai toujours une caméra à faire des trucs avec mes potes, j'ai moins été dans une salle à mater des films, donc je suis en train d'essayer de rattraper. Donc souvent il me donnait des films à regarder, et quand je lui donnais des films, c'était rarement au final ultra horreur ou genré. On a pas mal parlé de Green Room par exemple, mais ça reste un gros survival. On avait Alien en commun, que je range même pas dans la catégorie horreur, tellement pour moi c'est devenu iconique et culte.
Un grand film, ouais.
Oui, les gens qui verront Vermine comprendront tout de suite qu'est-ce qu'il y a d'Alien à l'intérieur, même dans la simple image. Mais c'est vrai que Flo arrivait avec des trucs beaucoup plus quand même précis et niche, et j'essayais en tout cas de m'atteler à la tâche de pouvoir le mater. Et pourquoi c'était ça? C'était rarement pour parler de monstres, c'était beaucoup plus souvent pour parler de personnages, en fait, parce que c'était la première chose qu'on faisait, c'était ok, nos personnages, faut qu'on y croit, et une fois qu'on croit au personnage, on croira au monstre, quoi.
Mais ceci dit, on avait aussi des refs très film classique, quoi. Je me souviens qu'on a parlé de Jurassic Park, des Dents de la Mer, il y avait ce truc de groupe de survivants face à des monstres. En fait, on se disait, c'est quoi les films de monstres où on se souvient grave des gens qui ont affronté les monstres? Parce que c'est vrai que le cinéma de genre, enfin le cinéma d'horreur, surtout celui qu'on voulait faire, à savoir de divertissement, le grand truc qui revient souvent, c'est ouais, mais les personnages, on s'en fout, c'est de la chair à canon, ils crèvent comme ça, etc., etc. Et modestement, nous, on s'est dit, bah voilà, nous, on veut faire des persos dont on se souvient. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de comédie dans le film, parce qu'on trouve que c'est une façon de rendre des personnages attachants efficace, parce que bah on s'adresse à des gens qu'on les code, donc on va pas faire l'exorciste à prendre une heure à les présenter. Donc on utilise la comédie pour les présenter assez rapidement, les rendre attachants assez rapidement. Et donc oui, on avait quand même ces trucs en commun. On a beaucoup parlé de La Cunette des yeux d'Aja aussi. On aimait bien. En fait, on a vraiment eu en tête des films efficaces, quoi. Alors le mot est jamais très beau pour parler d'art, mais on se disait, nous, on veut pas que les gens ils s'ennuient. On veut que les gens ils soient dans leur siège avec un gros popcorn, un coca, et qu'ils en prennent plein leur tête.
Pour leur argent, ouais.
On parlait tout le temps de ça. On disait un ciné, c'est cher. Ouais, c'est ça. Et on veut qu'à la fin, ils se disent, bon bah, ils ont à peu près tout fait de ce qui était possible d'un film d'araignée. On est content, on a kiffé, on a rigolé, on a eu peur, on a été ému peut-être. En tout cas, c'était l'objectif. Et donc voilà, on a parlé beaucoup, beaucoup de ça. Mais par exemple, je vais parler de Devil's Reject, par exemple, en disant, bah, tu vois, là, c'est des personnages super intéressants. Voilà, on a essayé de gratter, de rester dans des archétypes de films de genre, parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps et on veut pas faire un film chiant. Et malheureusement, passer du temps avec des personnages, ça peut être un peu, enfin voilà, ça prend du temps, quoi, dans un film de genre. Et en même temps, pour faire du grand spectacle. Et c'est en ça que je pense qu'on a été complémentaires, parce que lui est très fort. Enfin voilà, quand il a une caméra dans les mains, moi je trouve qu'il fait des trucs vraiment dingues. Et donc on s'est bien entendu là-dedans, quoi.
Et bah, vous parliez justement des personnages. On sent qu'il y a vraiment un soin apporté à l'écriture des personnages principaux, mais même des personnages secondaires. Et comment vous avez travaillé ça? Parce que justement, comme tu le disais, c'est souvent de la chair à canon. Donc comment tu arrives à ancrer des personnages pour qu'on ait un peu d'empathie pour eux et qu'on les suive?
Bah, au final, c'est tout frais, puisqu'on est en plein dedans pour nos autres projets, mais on bosse un peu de la même manière. Bon, on a une espèce de modus operandi qui s'est créé. Quand je vais voir Flo, hein, en règle générale, ça fait deux projets, quoi. Mais sur Vermine, j'arrivais avec un pitch, j'avais un semblant de trois actes, je savais où on allait aller, j'avais une fin. On voyait comment l'antagoniste allait évoluer, etc. Et j'avais un semblant de personnage, mais entre la V1 et la version définitive, il y a des relations qui ont complètement changé. Mais on a quand même fait cette liste de les prendre un par un, de qu'est-ce qu'ils racontent, quelles sont leurs caractéristiques. Il y a aussi un rôle qu'ils jouent dans la dramaturgie. Celui-là sert à ça, celui-là sert à ça. Et après, c'est quand on les met en relation les uns avec les autres que d'un coup naissent énormément de choses. Toutes les étincelles, le film de groupe et encore plus le survival, ça va créer tellement de conflits dans le groupe qu'on cherche les personnages qui ont les conflits les plus intéressants les uns avec les autres pour avoir des leviers derrière de dramaturgie qui sont pas forcément de juste on doit survivre via un monstre. C'est ce qui se passe à l'intérieur du groupe est quasi aussi intéressant, en tout cas doit l'être, que ce qui se passe avec le monstre. Et donc du coup, voilà, révéler des choses, terminer des arches, avoir des courbes intéressantes chez les persos. Et du coup, c'est ce qu'on fait quoi, en règle générale.
Et aussi, c'est peut-être très naïf, mais on parle beaucoup de nous et de nos amis et des gens qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est un film où on a essayé de mettre beaucoup. Il a passé beaucoup plus de temps que moi en banlieue, mais moi, quand je suis arrivé à la fac et tout, j'ai traîné à peu près dans les mêmes coins, on se connaissait pas, hein, mais dans les mêmes coins. Après, moi, j'ai vécu 3 ans à Saint-Denis, et c'était j'ai été témoin, parce que moi, j'étais un petit gars de la campagne, de plein de choses que je voyais pas au cinéma, de gens qui s'entraident, de gens qui se comprennent tout de suite en un regard, etc., etc. Et quand on parlait, ça revenait, et on se disait, mais ça, c'est des super relations de personnages face à une catastrophe, quoi. Des gens qui se connaissent bien, qui se lâchent pas et qui se battent et qui machin. C'était des trucs qui on se disait, ah ouais, ça c'est plutôt intéressant. Et puis on a mis plein de choses à nous sur des amis qui pour parler un petit peu plus dans le film, mais ceux qui partent, ceux qui restent et qui développent des frustrations, ceux qui partent et qui tournent leur regard sur leur passé. Voilà, c'est encore une fois,
les
trucs de famille. On n'a pas voulu faire un film giga profond, mais de mettre quand même ça pour que ces gens-là existent, parce que c'est des gens qu'on est déjà peut-être un peu et qu'on a côtoyé, ça c'est sûr. Et même dans la concierge, moi, c'est quasiment exactement celle que j'avais dans mon immeuble. Enfin voilà, c'est des personnages, on s'est beaucoup inspiré de gens qu'on a croisés aussi, mélangés à effectivement des personnages. Je parlais de Jurassic Park ou de trucs comme ça, même des personnages de films catastrophes. D'ailleurs, on parle beaucoup de cinéma d'horreur, mais dans les 90, il y avait plein de films catastrophes où il y avait des petits groupes, ouais, face à des dingueries et ils étaient présentés très vite avec un passif, un truc, un machin. Et c'est vrai qu'on a essayé de garder ce truc-là en tête.
Il y a beaucoup de difficultés de communication entre tous les personnages, en fait. Tout le monde se crie dessus. Personne n'arrive à se parler calmement, à part le seul personnage qui fédère un peu, c'est la voisine dont j'ai oublié le nom, la voisine qui va déménager. Mais ça, c'était important d'avoir des relations très conflictuelles aussi.
Alors, c'est marrant. On a mis en place tous ces conflits, etc. Je me rappelle avoir envoyé un message à Flo le moment où vraiment, à la V1 de montage, j'ai fait, mais putain, on a écrit un film qui ne parle que de l'absence de dialogue, les difficultés des gens à se parler entre eux, entre un frère et une sœur, entre deux potes, entre la police et les jeunes, entre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans ce film. Et en fait, on l'avait pas autant que ça conscientisé. On avait mis les choses et les conflits en place. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la V1, j'ai fait, ça m'a sauté aux yeux, clairement. Et bon, bah, après, ça sert aussi à ça, hein. Faire un film, il y a des choses tellement personnelles qui ressortent. Et après, quand on réfléchit à nos lives, on se dit, ah oui, effectivement, ça me surprend pas tellement non plus que ce soit.
J'appelle mes parents, ouais,
que ce soit aussi présent, quoi.
Non, mais c'est comme tout, je pense. C'est au scénario, moi, j'ai une toute petite expérience. J'ai pas écrit beaucoup de films, mais tu te dis, bon, voilà, on va être finaux, on va mettre ça sur une ligne ou deux, et ça à fond à l'image, quoi. J'ai beaucoup plus vécu ça que l'inverse, en me disant merde, j'ai essayé de mettre un truc un peu fin, personne l'a vu. Non, les gens, d'un coup il y a des acteurs, il y a de la musique, il y a une lumière, et en fait les trucs ressortent beaucoup plus.
Y a, c'est vrai qu'en fait c'est un truc qu'on retient, les personnages, hein, dans le film et tout. Et moi je me demandais aussi dans l'écriture, et c'est même le truc qui est le plus touchant, je trouve, en fait, finalement, à la fin, c'est que en fait on reste sur eux et tout fonctionne, quoi. L'émotion est là. Moi je me demandais à l'écriture, en fait, quand on fait un premier film comme ça, en fait, est-ce qu'on a envie de tout foutre dedans là et de se dire ok, c'est spectaculaire, mais on reste en France et on n'a pas beaucoup de budget, en fait, voilà. Est-ce que, en fait, vous avez dû couper des trucs, ou est-ce que vous vous êtes pris la tête un peu pour recoller un peu les morceaux des fois, ou est-ce qu'au contraire, en fait, vous avez ce que vous vouliez, vous avez vraiment penser l'écriture de manière, en fait, à ce que ça soit faisable, en fait.
Tu viens de vraiment d'expliquer ce qu'était la différence entre une V1 et une V2. Ouais. C'est-à-dire que, bon, ce qui est très cool à bosser avec Flo, qui est comme moi, c'est qu'on n'a pas énormément d'attache non plus sur le scénario lui-même, hein. Ça peut paraître paradoxal, mais moi, le scénario, une fois qu'on est sur le plateau, c'est un bout de papier qu'on jette, je m'en fous, je l'encadre pas, il est pas sur mon bureau, quoi. Et donc, du coup, entre la V1, qu'en plus on a dû écrire rapidement, on s'est dit, ok, de toute manière, tout le monde a toujours des retours à faire, autant ne pas être ultra émotionnellement attaché à fond dans le truc. Donc ça a été une espèce de... Dès que Jutor nous a dit, imagine que t'as nos limites budget à 200 millions. Donc on a tout mis dedans, ça partait sur le toit, c'était catastrophique, c'était...
C'était pas bien. Hein,
c'était un film...
C'est pas qu'une raison qu'on a eu de l'argent.
C'était dans le sens film catastrophe, c'était énormissime.
Moi, c'est dans le sens pas bien.
Je pense que c'est
un avion qui arrive, qui s'éclate.
Voilà, c'était un peu moins bien, au final. Non, il y avait beaucoup de scooters, de livraison de pizza avec des araignées dedans pour raconter un peu ce qu'il y avait comme résolution à la fin. C'était énormissime et c'est trop intéressant parce qu'après on donne ce scénario. Par chance, les gens qui l'ont lu sont des professionnels et nous disent ok, on voit où vous voulez aller, on greenlight le projet. Et ça, c'est peut-être on en parlera après, mais c'est Netflix les premiers à avoir dit ok, on veut le faire, même s'ils ont dit on veut le sortir en salle. C'est les premiers à avoir dit ok, allez-y, vous pouvez écrire en toute sécurité, on va faire en sorte de faire le film avec vous. Donc à partir de là, on nous dit oui, mais vous êtes en France, ok, donc du coup, quel est le budget? Et là, en fait, ça devient intéressant parce qu'on nous donne des barrières, ça devient artistiquement intéressant, on commence à se creuser la tête. Donc on pense de toute manière toujours personnage, ça coûte pas d'argent. Et après, quand comme disait Flo, c'est plutôt ma charge de réfléchir un peu scénographie, je commence à réfléchir à quelques problématiques, comment je vais filmer ça, comment je peux faire peur avec le son, comment je peux mettre ma caméra ici et changer cet effet. Cette scène, par contre, elle est hyper importante, on va mettre le budget là-dedans, on va la garder. Mais peut-être que parce qu'il y avait un moment une espèce de descente en rappel sur le toit de l'immeuble des camemberts qui a arrondi, etc. Bon, peut-être qu'on va faire en fait un full huis clos qui ne sort pas et on ne va pas avoir tout ça. On s'évite le studio fond vert machin. On enlève cet hélicoptère qui était censé passer près de l'immeuble pour essayer de les capter, tout ça. Et en fait, on sort un peu de ce film série B qu'on avait, où on avait tout mis dedans, et on devient beaucoup plus précis, beaucoup plus auteur, et en même temps vraiment très divertissant, parce qu'on amène plein de nouvelles idées. Et on a une version, pour moi, qui est beaucoup mieux. C'est-à-dire que la contrainte financière est au final ultra intéressante, quoi.
Oui, en fait, la V1, c'est pas juste, on se dit, peut-être ça va rentrer. C'est aussi du pur plaisir d'écriture, quoi, de dire ok, ça nous fait kiffer cette scène, on va au bout, on savait pas du tout ce qu'on garderait, ce qu'on couperait. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y a la deuxième partie, on voit les trucs auxquels on est un peu plus attaché, où on se dit. Et moi, j'avais beaucoup en tête alors je sais plus si c'était une interview ou un commentaire audio de Bustillo et Maury sur À l'intérieur,
ouais.
Où justement ils avaient dit c'est notre premier, on a tout mis, parce qu'ils parlaient de Duvauchel à la fin qui vient quasi en zombie parce qu'il s'est pris un flashball dans la tête, et que même eux disaient, c'est vrai que c'est un peu autre chose, mais on avait envie de faire ça, quoi. Et c'est marrant parce que nous, on avait un truc presque similaire sur un des personnages du film qui revenait un peu piqué, dégueu. Et tout de suite, je fais, mais merde, on refait exactement ce que Bustillo et Maury ont dit. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'on peut s'éviter ça en se disant qu'en fait, faut pas qu'on mette tout ce qu'on a envie de mettre. Garder un peu les trucs où on se dit, peut-être ça sort un petit peu du contrat de base qui est des gens doivent survivre à une attaque d'araignée. Et donc tout ce qui sortait un peu, et d'un coup là le danger c'était, il parlait de la scène où il descend en rappel, là le danger c'était autre chose, c'était de descendre en rappel, donc c'était pas exactement pareil. Et puis l'autre truc c'était un gars qui devenait terrifiant, donc c'était encore un autre film. Et donc on est vraiment resté laser, pour citer un des personnages du film, en se disant ok, c'est ça notre film, et on va pas s'enlever de cette ligne directrice, on va aller au bout de ce truc là. Et au final c'est très cool parce que le film fait déjà 1h40 et voilà quoi.
Il y a deux idées très cool qu'on a gardées sur un petit bout de papier qu'on ressortira sur un autre film.
Dans le 2, où c'est, elles sont géantes. Voilà.
Alors maintenant, ça c'est un truc qui est bien aussi. Tu vois, tu rigoles là-dessus, mais en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup avec les araignées, c'est qu'elles sont, en fait, elles évoluent au fur et à mesure du. C'est-à-dire, vous refusez pas du tout le fantastique. Il y a vraiment l'idée qu'à un moment donné, en fait, la toute petite araignée qu'il achète au début, qui ramène chez lui, en fait, elles finissent par grandir et grandir jusqu'à ce truc final, en fait, où on la voit comme ça et qui est moi je trouve un super chouette reveal parce que tu dis ah ouais, ils assument le fantastique, c'est super et tout.
Il l'a dit Flo, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc de vouloir faire un film d'araignée et on est là pour que les spectateurs en aient pour leur argent et se disent ouais, je sors pas déçu de la salle. Donc il y a tellement de choses à explorer au niveau de l'araignée. Le challenge est de rester réaliste et rester crédible, donc c'est sûr qu'on va pas partir sur des araignées de 8 mètres. Et du coup, on a un peu mis ce qu'on avait envie nous de voir en salle à l'écran. Et voilà, on espère que ça fonctionne, quoi.
Et c'est marrant parce que ça, c'est le débat inverse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, je me souviens, on s'est dit, mais ça va peut-être, parce qu'on connaissait pas la qualité des effets spéciaux à l'époque. Oui. Après, on a eu MacGuff et tout. Donc effectivement, on se dit, putain, on aurait pu en mettre encore plus. mais ils sont extrêmement forts. Et je me souviens qu'on a eu un débat à l'époque de dire, ouais, mais attends, fais gaffe, le fait qu'elle grossisse, est-ce que ça, justement, c'est pas un
too
truc
much en France,
qui va être ringard, qui va mal, où les gens vont dire oh, n'importe quoi et tout machin.
Et ça racontait quelque chose aussi dans le propos. Donc
et en fait, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu deux choses. Il y a eu le propos et ce que je disais de on a envie qu'effectivement les gens à la fin ils disent oh ben on aurait bien aimé quel gros, enfin on a essayé de se mettre toujours dans la position du spectateur parce que il fait le modeste sur sa cinéphilie mais il regarde quand même plein de trucs et on essaie toujours de pas oublier encore une fois la personne qui sera dans la salle de ciné. Si à la fin elle se dit oui bon j'ai compris, puis c'est tous les films de genre, c'est quand la menace est la même pendant 1h40, au bout d'un moment elle est moins menaçante quoi. À la fin des Dents de la Mer, le requin il monte sur le bateau. Je pense que plein de gens pourraient dire bon ça n'a aucun sens que ce requin il monte sur le bateau. Bon je compare pas notre talent à celui de Spielberg, mais je pense que c'est important d'aller de pousser un peu les petards sur la fin pour que le spectateur soit un peu encore excité quoi.
Et justement, comment vous avez travaillé avec les araignées, comment vous avez choisi déjà le type d'araignée que vous vouliez dans le film?
Moi, je savais que je voulais pas mal taffer avec des vrais. Il y a tellement de choses qu'on pouvait faire avec des vrais. Après, il a fallu les connaître, les rencontrer, comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir savoir ce que j'allais pouvoir obtenir. Il s'avère que j'ai pu obtenir beaucoup plus avec les vrais, ce qui vraiment est un énorme plus pour le film. Parce que bah, genre, c'est une autre façon de filmer, c'est une autre façon d'éclairer, c'est une autre façon de penser la scène que d'avoir des vrais. Et puis encore une fois, voilà, on parle de la série B, du nanar et tout. Bon, bah, c'était complètement impossible que j'aille vers la tarentule et la migale qu'on a trop vu, qu'on a vu dégoulinante, bavante. Si en plus l'idée était de faire un peu grossir le bébé, rester là-dessus, bah, d'un coup elles deviennent un peu nounours, un peu des gros trucs poilus. Et moi je voulais absolument quelque chose qui fasse que pour le spectateur s'identifie. Encore une fois, donc l'araignée de base devait être quelque chose qui ne fait pas tropical, qui ne fait pas vraiment alien, qui se sait que ce truc dans ma salle de bain, il y a un truc de oh ok je connais, mais elle est fat, elle est très fat. Donc du coup en fait je suis parti vers ce qu'on connaît en Europe mais qui nous fait peur, qui est la tégénaire. Mais la tégénaire se limite à une taille qui est raisonnable on va dire, même si plein de gens me diront que non. Et donc du coup l'équivalent un peu plus balèze était l'hétéropoda, en l'occurrence Maxima dans le nôtre. Maxima, je vais pas faire la définition quoi, et qui avait ce truc là qui était assez balèze dans les pattes. J'allais pouvoir bien utiliser les pattes, je voulais vraiment baser aussi la frayeur là-dessus, sur ces mouvements un peu félins que font les pattes et cette espèce de discrétion presque élégante qu'ont les araignées. Et j'ai jamais vu ça au cinéma, de voir ça un peu grossir. Et je me suis dit, là, je vais avoir un truc qui est réaliste, auquel on peut vraiment s'identifier et qui ne fera pas monstrueux nanardesque, quoi.
Et toi t'es parachnophobe, vous êtes parachnophobe.
Pas du tout,
voilà, c'est ça. Mais bon, quand tu tournes un film comme ça, il y a forcément des gens dans l'équipe qui le sont.
Ouais, carrément, on a une assistante cam qui s'est faite hypnotiser pour pouvoir faire le film. Assistante cam, pour ceux qui savent pas, elle doit faire le point, donc rendre l'image nette sur tout film. Donc elle a littéralement un combo devant les yeux tout le film, enfin pendant le mois et demi de tournage. Et du coup, elle voulait faire le film, donc du coup, elle est allée se faire hypnotiser. Puis après,
ça a marché.
Ça a marché, ouais, carrément. Et après, elle s'est rapprochée aussi de ses petites bêtes. C'est une amoureuse de la nature aussi, donc ça aide. Elle voulait vraiment comprendre pourquoi elle a ça, quoi.
Je pense que la curiosité aide, parce que moi, je suis impératif. Pour le coup, je suis arachnophobe et je suis allée dans une animalerie tropicale pour découvrir des araignées. Au début, je pouvais même pas regarder une mue et une toile d'araignée, et à la fin, j'ai fini avec une migale sur le bras.
T'as fait en rapide ce qu'a fait aussi Sophia, qui était très arachnophobe. Lisa, ça allait, même si elle a dû un peu taffer dessus, mais c'est vrai que Sophia avait une énorme arachnophobie, mais elle a un profond amour pour pour tout ce qui grouille, qui rampe, qui vit. Donc du coup, avec Karim, notre éleveur, elle s'est beaucoup rapprochée des araignées pour essayer de comprendre pourquoi elle avait ça. Et encore une fois, c'était très intéressant, parce que c'est vraiment en lien avec notre propos, parce que c'est juste un délit de sale gueule, parce que tu comprends très vite que c'est juste l'aspect qui te dérange. Quand tu t'y intéresses, tu te rends compte que c'est pas plus dangereux qu'une abeille, quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce côté l'araignée, c'est quand même peut-être l'animal dont les gens ont le plus peur. On peut la trouver dans notre maison, donc c'est un truc, moi qui ai un peu moins peur maintenant grâce à ce truc, je sais que j'ai toujours le petit sursaut quand j'en vois une chez moi. Et c'est vrai que c'est assez facile de faire peur avec des araignées, mais comment tu le mets, comment tu arrives à le mettre en scène, quoi?
C'est commencer par de l'horreur, on va dire, domestique. C'est-à-dire que je veux mettre les gens dans une position inconfortable. Comme tu dis, t'as le truc de pas la vouloir dans ton environnement à toi. Donc ça, c'est cette séquence un peu centrale qui est celle de la salle de bain, où tout le monde la connaît. Il y a cette espèce d'imagerie de la douche, de la tuyauterie, des bouches d'aération, tous ces trucs-là où vraiment... je vais trigger des zones un peu faciles chez les gens. Et comme disait Flo tout à l'heure, après, c'est une histoire d'évolution. C'est-à-dire, OK, ça, c'est fait. Maintenant, next, l'étape suivante, parce que tu peux pas me la refaire, celle-là. Je me suis habitué, on va dire. Et donc, progressivement, tout le film, il y a eu ce truc de rechercher toujours comment surprendre, comment innover et comment petit à petit aussi faire évoluer la créature sans forcément se dire, OK, bah, elle a des pics sur le dos et d'un coup, elle crache du venin et tout ça. De se dire, OK, genre physiquement, OK, on va faire quelque chose d'intéressant, mais c'est pas ça. C'est aussi sa prise de position par rapport à cet univers. Une salle de bain, c'est une chose, mais d'un coup, on est moins habitué à la voir dans une cage d'escalier tout public. Et il y a aussi l'invitation d'étoiles dans cet environnement. Petit à petit, se faire voler son environnement par la créature et où elle va s'installer, le nombre, la taille. Tout ça devait progresser au fur et à mesure du film, quoi.
Et les araignées, je trouve que tu les filmes comme des animaux, quoi, parce que souvent dans le film de monstres, on va les anthropomorphiser, on va leur donner un aspect méchant, et toi c'est pas le cas, et c'est pas ce que tu veux montrer dans le film.
Pas de clin d'œil.
même les bruitages, parce que pour les nanars dont on parlait, c'est vrai que les Arakatak et tout, je les ai pas matés, mais j'ai maté les body counts sur YouTube, et c'est vrai que quand elles sont tuées, elles font des bruits humanisés, juste c'est pitché, c'était le truc horrible que je voulais pas faire. Mais ouais, il y a, ça, encore une fois, avec le propos, le film est aussi très protection animale. Il y avait un truc où l'araignée n'est pas un monstre, ça fait partie des propos du film. La scène d'intro, elles sont arrachées à leur terre natale. Pour moi, c'est une séquence d'horreur qui n'est pas pour l'être humain, mais elle est plutôt horrifique pour l'araignée qui subit et vraiment qui va vivre un vrai film d'horreur à elle toute seule. Donc bon, je dis pas que le spectateur a immédiatement de l'empathie, il y en a, c'est plus compliqué, mais en l'occurrence moi j'ai de l'empathie à ce moment-là, je veux créer une espèce d'empathie, et l'araignée n'est pas prédateur dans le film, elle est tout le temps attaquée en première, elle ne fait que se défendre, donc du coup c'était important pour moi de mettre ça au centre et de la rendre dangereuse en réaction seulement. Et du coup on n'a pas allé chercher plus loin que ce qui existe déjà dans la nature. De toute manière, encore une fois, voilà, l'araignée, elle subit le délit de sale gueule juste à exister. J'avais pas envie de créer le monstre et de faire un effet dans de la merde. D'un coup, on déteste tous les requins. Moi, l'idée, c'est technique, hein, mais c'est qu'on sort de la salle en se disant, OK, je regarde les araignées différemment. Je vais peut-être pas directement hurler, l'écraser. Mais c'est un sous-texte, quoi.
Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà mis en place, quoi qu'il arrive, dans le scénario, en fait.
Oh bah oui, même voilà. Le titre en fait, voilà. Enfin, tout ça c'était l'idée de... Mais c'est aussi pour ça que j'ai sauté sur l'occasion de travailler avec Sébastien, parce que j'ai adoré qu'ils disent, voilà, il y a un sous-texte que j'aimerais aborder, mais que je veux pas que ce soit le sujet principal, je veux d'abord faire un film de divertissement. Et moi c'est vrai que c'est le cinéma de genre que je préfère, c'est le cinéma de John Carpenter ou de gens comme ça, où c'est d'abord un pur divertissement, de la pure mise en scène, du pur... Et évidemment, ça dit quelque chose un peu sur son époque. Bon, ben voilà, modestement, évidemment, je compare pas le scénario à du Carpenter, mais c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre coin, et effectivement, mais c'est encore une fois, c'est même logique, en fait, ça s'est avéré logique dans le scénario, c'est-à-dire que l'immeuble délabré, on veut en parler, mais c'est aussi le terme est pas forcément le plus heureux, mais une super aire de jeu pour du cinéma de genre, parce qu'une lumière qui marche plus, bah du coup elle nous fout dans la merde, ou ce truc qui glisse, ça nous fout dans la merde, etc., etc. Donc on parlait aussi beaucoup de Die Hard, je me souviens, de dire bon, en fait le bâtiment est aussi un personnage en soi, et il faut qu'on soit à peu près clair de ça, c'est l'escalier qui glisse, ça c'est le minuteur qui marche pas, pour que une fois que le danger arrive, le spectateur soit pas quoi, pourquoi ça marche pas la lumière,
se rappelle des trucs, surtout il se disait merde, ce truc marche pas, ouais, putain, on l'a vu au début,
voilà, c'est ça, essayer de glisser ça, de le glisser avec de la comédie pour que les gens se disent pas, ah oui d'accord, c'est une préparation pour un paiement plus tard, enfin voilà, on a essayé d'être vraiment, de faire attention à ça. Et puis voilà, et puis effectivement le truc de protection animale, ça c'était un truc, vu qu'on n'est pas du tout arachnophobe, voilà, c'était de se dire essayons de toujours faire en sorte, je parlais de Jurassic Park, tu faisais la blague, elle fait pas de clin d'œil. C'est ça, c'était de se dire, on fait Jurassic Park, on fait pas Jurassic World, quoi. On essaie, ouais, de vraiment les traiter comme des animaux qui peuvent être agressifs, mais pas comme des monstres.
Tu peux parler de cette punchline qui a sauté, qui était au scénario, qui traite
mais,
ça.
À un moment, comme tu vois, quand on s'excite un petit peu, on se fait plaisir à la V1, c'était ça. C'était un moment, ils enfermaient les araignées quand elles étaient un peu plus dodues dans une pièce. Il disait, tu crois qu'elles ouvrent des portes comme dans Jurassic Park, et donc ils foutaient une chaise, tu vois, pour être sûr qu'elles sortent pas de la truc, quoi, au cas où. Mais c'est pareil, c'était les trucs qu'on se dit, bon, là, ça y est, on est en train de faire n'importe quoi. Ouais, tu vois, c'est les moments où on se regarde, on fait. Et non. Allez, on efface.
Mais c'est ça qui est, que moi j'apprécie aussi dans le film, c'est qu'en fait l'humour il est pas cynique ou il est pas méta. Il y a pas justement ce genre de blague et tout. C'est vraiment, il vient du rapport des personnages entre eux, des vannes qui se balancent ou des situations ou du personnage de la gardienne. Et justement, donc vous avez un peu vraiment veillé à ça et à pas vous éparpiller.
Oui, en fait, déjà, on voulait pas que ce soit ridicule. Enfin, comme a dit Seb, ça peut être ridicule, des araignées géantes ou des trucs comme ça. Donc, déjà, fallait prendre la menace au sérieux, jamais essayer de la ridiculiser, loin de là. Et après, je suis désolé, je suis beaucoup en ref aujourd'hui, mais en même temps, c'est l'endroit, il y a plein de posters et tout. Mais je parlais beaucoup de Shaun of the Dead, moi aussi, parce que Shaun of the Dead est beaucoup plus une comédie que ce qu'on a fait. Mais Shaun of the Dead, c'est un super groupe très clair avec des relations entreconnectées. Et désolé, je vais spoiler un peu Shaun of the Dead, mais quand Shaun doit tuer sa mère, c'est une vraie scène émouvante, quoi. Moi, je me souviens d'être au cinéma en me disant, mais j'avais pas du tout prévu d'être émotionnellement impliqué dans cette scène. Et du coup, je disais, mais en fait, on peut y aller dans la comédie entre eux, parce que c'est ça qui va les rendre attachants. C'est ce que fait très bien aussi, je trouve, Jordan Peele. C'est des trucs de, voilà, ils sont entre eux, ils sont marrants entre eux. Et du coup, quand il leur arrive des choses, on est impliqué avec eux. Et des fois, effectivement, mais ça, c'est aussi le talent au montage, ce qu'ils ont réussi à retranscrire du scénario. Parce que moi, des fois, je me disais, bon, on verra. C'est ça qui est cool avec une petite blague. Tu dis, au pire, on la coupe, quoi. Enfin, tu vois, ça coûte pas beaucoup d'argent. On la coupera au montage si ça marche pas et c'est pas très grave. On fait pas une comédie, quoi. Mais à chaque fois, ils ont réussi quand même avec son équipe au montage à tenir ce ton que moi j'adore, qui est un ton qui est dans les Sam Raimi, les Peter Jackson à l'ancienne, les trucs de, voilà, on passe de l'un à l'autre. C'est le cinéma que j'ai adoré. Quand on cite des grands classiques comme Jurassic Park, Le Seigneur des Anneaux, Les Dents de la Mer, c'était ce truc tout mélangé de j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu peur, et à la fin je sors, j'ai l'impression d'avoir un peu tout vécu, quoi. Et c'est ça qu'on avait envie de faire avec ce film, je crois.
Et ce on en avait un petit peu parlé hors antenne une fois, quand tu m'avais je t'avais posé la question sur le côté un peu splatter du film. En fait, est-ce que en fait pourquoi est-ce qu'il y a pas, finalement, c'est de l'horreur assez grand public entre guillemets, mais pourquoi il y a pas de, par exemple, une explosion de tête, un truc en fait un peu marrant, quoi. Et tu m'avais dit, en fait, et c'était un discours assez intéressant, tu m'avais dit, ouais, mais moi je voulais pas transformer mes araignées en monstres purs et durs, et la vraie violence n'est pas là. C'est-à-dire, il y a une violence en fait qui est à côté, et surtout sur la police, sur la banlieue, etc., etc. Et je me suis dit, c'est assez intéressant d'avoir cet équilibre, parce que mine de rien, en se posant les questions en fait sur la façon dont on traite les araignées, bah il faut retrouver aussi l'équilibre de faire peur aussi, quoi. Donc je me demandais, dans tout ça, enfin on en a beaucoup parlé, mais je me demandais en fait jusqu'à quel point vous avez vraiment affiné tout ça au fur et à mesure, quoi.
Ouais, bah encore une fois, c'est la chance qu'on a avec ces créatures, quoi. C'est qu'elles font peur par leur simple présence, donc du coup l'utiliser, commencer à avoir quand même des jumpscares qui sont payants, on est là aussi pour faire plaisir aux gens, et en même temps des choses où on voit ce que le personnage ne voit pas, ce qui est un peu plus jubilatoire. Ça me ramène toujours au truc des guignols, on dit derrière, et la marionnette voit pas. Ces trucs là sont toujours un peu jouissifs. L'équilibre entre avoir peur et kiffer une scène vraiment de jubilé de ce qui va se passer, jouer avec les attentes du spectateur, peut-être parfois le trahir, parfois le surprendre, et du coup, pour moi, il y avait un truc, ouais, avec le, bah il y a des gens, on lit pas mal Letterboxd, parce que voilà, c'est là où vraiment il y a tout, quoi.
Se faire du mal un peu,
ça va,
ouais, franchement, on est vraiment pas des chance, ouais.
Mais quand on a une critique qui est full négative, on voit que ça va surtout chercher, c'est des gens qui ont l'impression d'avoir été trahis. Je me rappelle d'un commentaire où c'est où sont les crocs qui s'enfoncent dans la chair, où est ce truc là et là, ouais, j'aurais créé un monstre, j'aurais fait une araignée monstrueuse et tout. J'aurais envie de dire à cette personne, montre-moi l'araignée qui dans la vie fait ça, et elle n'existe pas, puisque les araignées font pas ça, donc je vais pas aller chercher là-dedans. De toute manière, j'ai pas voulu faire un monstre, c'est un film de monstre, mais j'ai pas voulu le créer, j'ai voulu faire avec ce qui existe. Et comme tu l'as dit très bien aussi, j'ai envie de faire, on crée une bascule d'antagoniste. On a aussi pas mal parlé de 28 jours plus tard, c'est toujours aussi très cool ces films où l'homme devient toujours plus monstrueux que le monstre lui-même, ouais. On parlait encore des conflits entre personnages plus tôt, bah là en l'occurrence c'était vraiment le levier parfait de montrer, voilà, la menace elle est pas où on croit. Et a posteriori, quand on réfléchit au film, on se dit, c'est vrai que les araignées, elles n'étaient pas si dangereuses comme ça. On a un peu créé un monstre malgré nous, quoi. Je voulais qu'on puisse garder cet aspect là, quoi.
Et c'est rigolo parce qu'on en a beaucoup parlé même en amont de, parce qu'on voulait pas faire un film gore ou en tout cas visuellement vénère, mais on voulait pas que ça ait l'air aussi petit bras. C'est-à-dire qu'on voulait pas non plus de la tête a explosé mais hors champ, quoi. On voulait pas aller là-dedans. Donc en fait, on a beaucoup réfléchi à comment. C'est vrai que la première vraie mort du film, elle est assez graphique de TN. Voilà, c'est là. Par contre, on montre un peu. Là, il se fait des effets de caméra pour dire voilà, voilà ce que ça fait quand elles attaquent. Bon, maintenant, on n'est pas obligé de les montrer attaquer tout le temps parce que vous savez. Donc maintenant, on va essayer de jouer plutôt à où est-ce qu'elles sont cachées, où est-ce qu'elles sont machin. C'était vraiment juste une envie de. Et puis il y a eu plein de films de genre français très cool d'ailleurs, mais où pour le coup, la Titane est très violent. Enfin voilà, c'était des films très très vénères. Et nous, c'était vrai, pas vraiment ça. On parlait vraiment films fantastiques.
Ouais, à l'inverse des films de monstres français qui montraient pas le monstre et à la fin, on voit un crochet, un petit truc. Fait oui, bon, bah base pas toute ta promo sur ton monstre. Donc il y avait un truc de non, on vous fait un film d'araignée, il y aura des araignées.
Vous voulez pas être frustrant trop. Donc c'est pour ça que quand les gens disent ah, c'est un peu frustrant. On se dit ah merde, c'est juste on s'est pas compris sur ce qu'on voulait faire parce que on voulait vraiment, alors ce serait vraiment pas, c'est pas du tout le but de, que les gens sortent frustrés, loin de là quoi.
Sans parler de frustration hein, moi c'était parce qu'en fait à la fin le film il rattrape je trouve tout par le traitement des personnages et l'émotion, donc du coup en fait c'est comme on le disait au début du podcast, c'est très rare en fait d'avoir finalement un film où c'est pas de la chair à canon, c'est très rare où on, voilà, donc comme ça fonctionne finalement le si tant est que ce serait des manquements hein, pour des vieux goreux comme moi qui ont envie d'avoir un petit peu de dose d'hémoglobine quoi. Oui c'est vrai que c'est pas vraiment ça, mais par contre en fait encore une fois je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de recréer ce type de spectacle en France. Déjà ce que vous avez fait là-dessus je pense hein, le cinéma américain le fut plus vraiment parce que justement en fait il y a une espèce de notion de dire bah, le monstre c'est le monstre et il faut qu'en fait il soit vraiment méchant pour que les gens soient vraiment hurlent dans le comment dire dans la salle, soient contents, applaudissent, etc., etc. Et vous êtes beaucoup plus dans une espèce de...
D'où l'avantage de l'araignée en fait, parce que justement ouais. Elle est, malheureusement la pauvre elle morfle de ça, on hurle alors qu'elle a rien fait, donc du coup utiliser ce truc là, ce levier là dans le film pour au final faire comprendre mais les gars vous criez d'un truc qui a rien demandé à personne et au final qui juste marche sur le mur. Ouais, bon, c'est bon pour moi, mais je vais pas pouvoir surfer là-dessus sur tous mes prochains films, ça c'est sûr. Ouais.
Malheureusement, c'est vrai qu'elle est en mode survie, c'est ça qui est.
Il faut
bien.
Les préparer quoi. Ouais.
L'idée de le vraiment de dire, elle est en train d'essayer de survivre elle de son côté, d'apporter son point de vue, c'est aussi un des trucs qui est plutôt, moi je trouve, intelligemment fait dans le film quoi.
Bah, c'est marrant parce que le début du film, il y a un mini clin d'œil à Branded, et ouais. Qui était lui-même un clin d'œil à King Kong, et en vrai, on revient toujours à King Kong quoi, c'est King Kong.
Alors,
c'est
Patty,
ça.
Ouais.
C'est un monstre qu'on a enlevé de là où il vivait, et du coup, quand on l'a ramené, c'était le bordel quoi. Bon bah voilà, c'est on n'a rien inventé hein, c'est
nous-mêmes monstrueux ouais,
voilà
clairement.
C'est ça, c'est parce que l'humain a voulu en faire un truc. Et même Gremlins, il y a la scène du début, on peut penser à ça aussi. C'est voilà, c'est des codes de films de monstres pour nous, donc on a voulu respecter ce truc là.
Il y a cette scène qui, pour moi, je pense, était la plus difficile. C'est la scène du couloir avec toutes les araignées, toutes les toiles d'araignée. Comment vous avez utilisé cet espace du couloir et même dans la verticalité aussi des escaliers? Comment vous avez utilisé cet espace confiné de l'immeuble?
Le couloir ou tout l'immeuble en règle générale?
Bon, les deux.
En fait, comme il en parlait, puisque voilà, on a Die Hard qui était là pour nous montrer aussi comment le décor devient un personnage. Bah, c'est parce que c'est bien présenté en amont. Tous les endroits, etc., sont présentés pour que quand on les retrouve plus tard dans le film, on fasse ah, je sais qu'ici il y a ça, et que en spatialisation, on sache où on est.
Le poster de la femme à poil, c'est bon. Il y a le poster qui est là.
Voilà.
On se disait ça. On dit,
du
okay,
coup,
nous,
moi, j'ai essayé de garder le même plan, en fait, le même cadre, pour qu'on sache à peu près, oui, ok, c'est ce plan-là qui a été utilisé, mais j'ai juste vu, là, il y a des toiles en plus, alors que plutôt dans le film, on n'avait pas. Et pour ce qui est de la scène, celle-là en particulier, en termes de création pure, en fait, il y avait une volonté d'avoir ce couloir vraiment d'une vingtaine de mètres. C'était vraiment l'étape de jeu vidéo que je voulais avec la traversée. Dans le scénario, pareil, ça prend quelques pages parce que tout est écrit. On saute une ligne à chaque fois pour bien montrer comment c'est long. Ce côté jeu vidéo, ce côté l'importance que ça avait dans le scénario, qu'est-ce que c'est comme passage pour les personnages, qu'est-ce que ça implique émotionnellement. Et après, on a tourné quelques scènes en studio, donc du coup, on a fait construire ce couloir que je voulais le plus grand possible. Et après, on a pu avoir le contrôle sur l'entoilement, justement, parce que c'était hyper important qu'on le présente une première fois dans le décor, dans le film avec. Il appartient aux hommes et quand on y retourne, c'est devenu un cocon, c'est devenu un immense terrier qui leur appartient plus. Et ils sont eux devenus, ils sont à l'échelle araignée parce que quand on a un tunnel de cette taille, en général, c'est les araignées qui le créent pour elles. Donc il y avait vraiment ce truc de jouer sur les échelles, ce que j'essaie de faire au max pendant le film, d'aller filmer les insectes en très très gros plan et essayer d'élargir plutôt quand c'est l'être humain pour différencier un peu les deux échelles. Et après, ça a été juste un truc storyboardé, très précis, etc. Parce que bah, je crois que c'est la seule scène où chaque plan est truqué. Donc du coup, c'est cher et du coup, il faut être très précis. Je sais qu'au montage, j'aurai le droit à un nombre très précis de plans. Donc très, très bien la découper, installer un selon traveling, entoiler tout ça avec trois matières de toiles différentes parce que c'était tout un débat, les toiles, pour pas sombrer dans... le nanar aussi, ou la toile de Jiffy de Halloween en coton, là. Donc, du coup, c'était une texture, une couleur. C'était vraiment très technique. On a mis du temps à la développer. Et après, préserver les comédiens de ce décor pour pas non plus qu'ils puissent aller rigoler dedans, faire des vidéos, machin et tout. Et après, je dis action et ils doivent faire genre, ils ont peur. Qu'ils le découvrent presque au moment où on va tourner la scène pour qu'il y ait un truc de vraie surprise de « Oh, on est dedans !» Et leur laisser à peine le temps de s'imaginer où sont les araignées, avec quelques araignées SFX qui étaient placées à droite à gauche pour quand même avoir la vision de leur taille, comment ça se déplace et pouvoir avoir des interactions. C'est vraiment tout ça mélangé pour essayer de... Et après, bien entendu, la post-prod, la musique et pour créer une scène qui fonctionne et que j'espère se veut un peu bascule dans le film, quoi.
Elle marche très très bien. Moi j'étais pas bien. Et les décors extérieurs, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont assez. Enfin, c'est un endroit assez beau. La cité, c'est à Noisy-le-Grand, je crois, là, où tu as tourné. C'est un endroit que tu connaissais, que tu avais.
Ouais, j'ai eu de la chance parce que vraiment, moi j'ai grandi à Noisy et il y avait un truc de. Bah, je veux parler de la banlieue que je connais, donc quoi de mieux que tourner dans la banlieue que je connais. Et quand on a. J'y avais pas forcément pensé et quand on a commencé à parler. À parler de décor, moi j'ai fait un gros dossier artistique pour Vermin pour le défendre auprès des gens qui allaient financer. Donc aujourd'hui ce dossier il fait 150 pages de dessins, de références. Et quand il en est arrivé à dessiner un immeuble, je commence à réfléchir à des tours, etc. Je fais attends, mais je suis trop con, j'ai envie de faire un truc à NDA qui est vraiment poussé. Pourquoi je veux pas juste tourner chez moi? Là où j'ai vraiment, il y a des bâtiments que j'ai toujours trouvé incroyables. Tout le temps que j'ai vécu à Noisy et en fait ça s'est fait très simplement, j'ai fait un croquis, j'ai dit ça je trouve ça lourd, en plus on y est je fais découvrir ça à mon chef déco qui commence à me trouver des aspects d'araignées partout, de toiles qui montent parce que les araignes, il y a vraiment une architecture et des structures qui font vraiment penser à ça. Et après, ça s'est fait très vite, juste prévenir tout le monde là-bas qu'on voulait tourner ici, impliquer tout le monde pour qu'ils puissent bosser aussi sur le film, c'était hyper important, parce que le film parle de ça, d'impliquer des gens qui sont pas forcément... Enfin, de ne pas laisser les gens, en tout cas, dans des boîtes et cataloguer avec une étiquette. Bah, c'était hyper important pour moi aussi de dire à tout le monde, les gars, on fait un film, venez, on fait le film tous ensemble, j'ai fait tous mes cours comme ça... Là, c'est un long métrage, mais ça change pas. Donc, du coup, on a eu toute la cité avec nous. C'était trop cool. Tout ça ensemble fait que voilà, je suis trop fier d'avoir ces bâtiments et Noisy au centre de ce film, quoi.
Et c'est ce que tu disais, le fait de on parlait tout à l'heure des personnages, le fait d'écrire des personnages qui sont pas des clichés. En fait, moi j'ai trouvé ça intéressant sans que ce soit appuyé. Idem avec tout le truc sur les violences policières qui viennent un peu à la fin du film. Aussi, comment vous avez réussi à doser ces trucs là pour pas tomber dans un film entre guillemets militant?
Alors deux choses, parler comme disait Flo des gens qu'on connaît, moi montrer la banlieue que je connais qui est un peu plus positive et optimiste on va dire que celle que j'avais vue au cinéma jusqu'ici, donc ça je t'en avais parlé aussi hyper tôt, ne pas en faire non plus trop un sujet, garder tout en sous-texte, avoir vraiment notre film d'horreur d'araignée, et après voilà l'envie profonde de ne pas faire un film manichéen, de faire un film avec vraiment toutes les nuances de gris en mettant tout ce qu'on peut aussi du point de vue de la police pour qu'on puisse aussi capter les difficultés que c'est pour eux de devoir intervenir, réagir dans des situations comme ça. Bien sûr, là on parle d'araignées, mais on parle globalement de situations qui sont hors de contrôle et de voir comment ça réagit des deux côtés, l'absence de dialogue qui fait que l'un a peur de l'autre et en fait il y a que de l'incompréhension des deux côtés. C'était un peu tout ça mis dans le shaker et puis on mélange quoi.
Sans nier ce qui se passe et qui est un peu une réalité quand même. Donc voilà, que ce soit pas... que ça se mélange bien avec l'intrigue en tout cas, c'était ça. C'était de se dire, il faut que ça y ait... que s'il y a des gens qui vont au cinéma pour vraiment juste voir du divertissement et rien sentir, qu'ils se disent pas merde, c'est le quart d'heure où les scénars et le réal veulent dire des trucs, mais bon, c'est encore une fois, c'était d'épeindre un film de genre dans la réalité dans laquelle il a été conçu et dans l'époque dans laquelle il a été conçu. C'est quand même ça qui est génial avec les œuvres artistiques, c'est de se dire bah c'est quand même le témoin d'une époque et donc voilà, on a essayé d'être le plus en tout cas selon notre point de vue hein, le plus sincère selon ce que nous on a ressenti etc. Et puis après c'est vrai que l'actu nous a presque rattrapé pendant que tu étais au montage au niveau des relations police banlieue donc voilà, donc oui, c'est une réalité et on a voulu que ça nourrisse notre histoire, voilà. Et aussi parce que ça c'est un vrai truc aussi, c'était voilà, bon, moi je vais parler de moi. Moi, je suis un petit blanc qui a grandi en Bourgogne, donc je vais pas me donner des grandes missions. Mais c'est vrai que moi, je sais que j'ai fait des choses dans ma vie parce que j'ai été beaucoup représenté au cinéma. Quand j'ai vu Kevin Smith faire des films, je me suis dit ah, mais il y a des petits gars un peu bedonnants qui sont des geekos qui peuvent faire des films. Bah voilà, quand Seb il m'a dit moi je veux parler de la cité dans laquelle j'ai grandi, cité que j'ai moi aussi fréquentée, je me dis mais ouais, ces mecs-là, ils sont pas trop représenté dans des films de pur divertissement popcorn avec quand même la réalité de ce qu'est la vie. Bah ouais, on écrit des héros qui peuvent être trop cool et qui se disent bah c'est cool au cinéma, on a vu des mecs qui nous ressemblent, qui font des vannes qui nous font rire et qui ont vécu une aventure qui est pas forcément un film social pour dire que ça va pas ou pour encore pire montrer à quel point ils peuvent être violents et durs. Non, c'est un film de divertissement où c'est eux les héros en essayant de l'ancrer dans une réalité qui est la nôtre actuellement. Voilà, c'est encore une fois ce qu'on a essayé de faire. Je dis pas que voilà, mais c'est ce qu'on avait en tête.
Et tu parles de l'actualité qui vous rattrape ou qui se retrouve dans le film. Est-ce que la pandémie et le confinement a aussi influencé l'écriture du scénario sur les scènes où ils enferment tout le monde dans l'immeuble?
Ça nous a aidé par contre, ouais, pour
ça
le
nous
coup.
A aidé, c'est un peu ça. Malheureusement, ça nous a aidé.
C'est ouais. Ça, c'est-à-dire qu'à une époque, je pense que tu dis bah restez chez vous. Je pense que les gens ils diraient bon, enfin c'est pas, tu peux pas aller enfermer les gens parce qu'il y a un mec malade dans un immeuble.
N'importe quoi, ce ouais. Film.
Non, on n'y croit pas une seule seconde.
Personne
c'est
fait
comme
ça.
C'est comme les mecs qui ont rematé Contagion et qui ont dit mais en fait Contagion ça marche, tu vois, ouais. Lorsqu'à l'époque on disait pff, n'importe quoi. Et donc ça pour le coup c'est vrai que, parce qu'on en a discuté hein, et à un moment on s'est dit mais tu sais quoi, on sort de 2 ans de Covid, je pense que les gens ils vont pas poser. Non,
mais surtout
plus
la différence entre scénar et montage, parce qu'on en a mis un peu plus dans le scénario, ça lutte un peu plus contre la décision de mettre l'immeuble en quarantaine.
Oui, c'est vrai.
Et au montage je dis, on en a pas besoin hein. Le gars il dit tout le monde dans l'immeuble, ça fait oh. Enfin ouais. C'est bon, tout le monde a compris
en fait,
que ouais,
tu sors de l'immeuble avec un masque,
c'est pas ce qui se passe,
les gens ils disent non mais en fait on va rester chez nous. Et on voulait juste, on parle d'ancrer dans une réalité, mais l'idée c'est pas de ramener trop à la vraie vie, parce que moi ça me déprime toujours quand je vais au cinéma et qu'on me dit vous savez que le président il s'appelle Macron, je fais oui je sais mais je vais pas au cinéma pour qu'on me rappelle ça. On voulait pas utiliser le mot Covid, on voulait pas utiliser le mot pandémie, etc. Genre non, il est malade, le gars il a un masque, il dit des phrases comme restez chez vous, restez à l'intérieur,
c'est pas ce qui lui est arrivé, c'est tant qu'on sait pas
restez chez voilà. Vous machin, on s'est dit bon, on a suffisamment le fantôme du confinement et tout dans l'esprit pour que les gens ils se posent pas trop de questions. Et d'ailleurs ça pour le coup ça ne ressort absolument jamais ouais. Quoi ouais, les gens ne posent aucune question là-dessus. Donc, merci le Covid, c'est ça qu'on voulait dire.
C'est quoi les enjeux en fait d'un film comme ça? On dit toujours dès qu'il y a un film de genre français qui sort, alors surtout peut-être avant encore Les Graves et Titane où c'était là c'est vraiment moi je les mets un peu à part, ouais. Mais dans l'idée de produire un film qui coûte un peu d'argent quand même mine de rien, de représenter quelque chose pour tout un public en fait qui est pas généralement hyper bien représenté. Je parle vraiment du cinéma, dans le cinéma de genre quoi. C'est quoi les enjeux financiers en fait? Est-ce qu'il faut que le film son
non, parce qu'au final, on dit que ça reste un tout petit budget. On a plus que ce qu'on aurait pour une comédie française d'un premier réal avec des acteurs pas connus qui se tournerait autour de 1,5 ou 2 quoi, millions. On a un peu plus avec les effets spéciaux, des choses comme ça. Donc en fait, je me retrouve à vers le film un peu dans les mêmes conditions. Juste, je sais qu'il y a une partie qui partira en effets spéciaux. Donc l'enjeu est, j'ai pas envie de dire qu'il est pas énorme, mais il est énorme pour la France parce que le plus gros film d'horreur qui est eu français en langue française, qui est sorti en français. Il a fait 350 000. On se dirait oui, 350 000, bon, ça va. C'est pour un film d'horreur en France, c'est énormissime, 350 000. Et c'est malheureusement un peu le minimum qu'il faut pour que les gens qui ont investi, eux, récupèrent, ça c'est sûr. Mes enjeux à moi sont complètement différents parce qu'ils sont artistiques. Moi, j'ai besoin qu'on voit que le film fonctionne, que dans la profession, on se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose qui artistiquement est là. Et bon, pour ça, il y a les festivals, il y a les prix en festival et tout. Donc, on a la sensation d'avoir été adoubé, entre guillemets, par la profession qui dit, OK, en tout cas, cette team-là, parce que je me mets pas tout seul en tant que réal, il y a vraiment une équipe qui fait le film. Cette team-là a fait une bonne turbine, ça fonctionne. Maintenant, pour moi, quand on me pose ce type de questions, l'enjeu, il est plutôt chez les gens qui investissent. C'est eux qui vont pouvoir déterminer s'ils vont continuer à investir, s'ils vont retenter l'aventure ou s'ils disent non, mais ok, c'est pour ça qu'on le fait pas. Parce que des propals, il y en a un milliard. On connaît tous des réals et des auteurs qui ont des idées de fous, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on investisse plus dans ces trucs-là. C'est plutôt les producteurs et les distributeurs qui prennent ce risque-là. Il y en a très très peu. Il s'est passé un truc miraculeux avec Vermine en termes de production de financement que je saurais pas expliquer. Mais il y a aussi
la porte Netflix par exemple.
La porte Netflix qui nous ouvre vraiment les portes d'un coup de tout le monde dit mais c'est quoi ce truc Netflix qui va sortir en salle, et tous les gens du coup qui disent ah bah vas-y on veut le lire, et quand ils le lisent ils disent ah ok, il se passe un truc, tout le monde veut mettre une petite bille là-dedans pour voir ce que ça va donner. Si on fait 20 000 entrées, je pense qu'ils se diront bon on a essayé, bon voilà, on voit que c'est pour ça qu'on les fait pas. Si ça commence à prendre un peu plus, bouche à oreille, tout ça, je pense qu'il y aura un truc de se dire ah mais c'est quand même le cinéma qu'on kiffe aller voir en salle quoi, parce que moi j'ai rencontré des financiers qui ne font pas du tout de genre, qui ne font pas du tout de d'horreur, enfin ça a rien à voir avec ce que je fais. Qui sont sortis de la salle et qui m'ont dit franchement j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, j'y suis allé avec mes enfants, on a rigolé, on a flippé, c'est trop bien, on va en parler en rentrant à la maison, etc. Et du coup il y a un truc de bah vas-y financez ça, et d'un coup c'est non ouais bon non, parce que quand on commence à parler argent c'est différent. Je pense que l'enjeu il est un peu sur le futur de ce qu'on va faire en France quoi,
parce que c'est vrai que l'étiquette, je sais quoi, on aime pas ce mot, mais du film elle est marrante parce que pour nous, elle est méga grand public, justement. Enfin, il y a un truc un peu de, bah, justement, c'est cool. On est moins auteur, disons, que le cinéma de Julia Ducournau ou les Teddy ou les choses comme ça. Donc pour nous, on est beaucoup plus grand public. Sauf qu'en fait, bah, mine de rien, ces films-là, ils sont clairs à vendre, quoi. C'est l'œuvre d'une artiste qui a, voilà. Et donc nous, alors, quand on arrive en disant, bah, nous, c'est Jurassic Park et les Dents de la Mer et tout machin, c'est vrai que c'est plus, voilà. Et on a essayé de faire attention à, justement, tu vois, il y a un propos sur la police, la banlieue, mais on dit attention, c'est pas non plus un film qui parle de façon très dure et de la cité, etc. Voilà, on essaie de défendre ce truc de divertissement. Et ça, du coup, il y a le contre-coup de, les gars, enfin, et là, je parle presque d'un certain public, hein, de, les gars, vous êtes français, calmos, enfin, tu vois, où les gens ne.
Le divertissement, en tout cas, est pas considéré comme ultra noble, j'ai l'impression.
En fait, c'est ça que l'entre-deux qu'on a ressenti un peu, qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que, en France, il y a un côté, je caricature un peu, attention, on est très soutenu par plein de gens et la presse est vraiment plutôt cool avec le film, donc voilà, mais c'est vrai que le film est difficile à cataloguer parce qu'en France, on n'est pas très auteur, et puis pour le grand public, c'est ouais, mais les gars, vous n'êtes pas des Américains, quoi, donc ça va forcément être cheap. Je parle des gens qui ont vu que la bande-annonce, tu vois, ça va forcément être cheap, ça va forcément pas être. Grand spectacle et tout, et donc nous on dit bah franchement venez voir le film parce qu'on croit qu'on a essayé, on croit qu'on a un truc qui peut vous plaire, même si c'est des Français, même si on s'est pas pincé le nez quoi, on a voulu être généreux, en tout cas ça je pense que c'est pas survendre le film de dire il est généreux quoi, on a essayé de mettre plein de trucs.
Et en plus en termes, enfin je veux dire, si on parle vraiment de ce que le public va voir dans le cinéma d'horreur, ça soutient totalement le truc, il y a aucune raison en fait, et là je parle vraiment, je mets pas du tout des logiques de on aime ou on n'aime pas ces films-là, mais il y a littéralement aucune raison, il faut le dire quoi, que en fait qu'on se dise ah c'est un peu cheap par rapport à toutes les productions tu vois américaines qui sont, j'ai pas des trucs en tête, mais tu vois, enfin les James Wan, les machins, les trucs, les Blumhouse, non en fait on est dedans en fait, c'est pour le
et
coup
même par rapport à plein de films d'araignées, vous en parliez tout à l'heure sur le côté que c'est devenu très nanardesque, et là en fait t'as vraiment peur des araignées et t'as l'impression de voir, enfin tu vois des vraies araignées, t'as pas l'impression d'avoir une espèce de marionnette de la foire du trône ou ce genre de trucs qui font pas peur quoi.
Mais c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur le bouche à oreille quoi. On dit il faut juste que les gens ils donnent une chance à ce film parce que vraiment on croit assez au film pour dire vous serez pas déçu si vous lui donnez une chance,
quoi,
sont vraiment.
Kéblo, juste parce que ça parle français, quoi. Voilà, donc c'est ça. Il y a des trucs comme ça, à un moment qu'il faut dépasser aussi.
Justement, en plus, enfin, moi je trouve qu'on a quand même une très belle fin d'année sur le cinéma de genre, pas forcément que de l'horreur, mais on a eu Mars Express, Le règne animal, Vincent de mourir, Gueule noire. Il y a plein de choses là qui existent sur cette fin d'année, et en fait, si les films comme ça marchent, c'est sûr qu'on en aura plus. Et enfin, il y a un truc qui se passe.
Ça finance 70 comédies par an. On en parle de 10 à la fin de l'année, donc c'est sûr que le ratio. On se dit et encore bon, alors de 5, tu vois, de 5 bonnes comédies, on se dit c'est pour ça qu'on finance, mais tu parles pas des 65 autres qui se sont pété la gueule. Le jour où on finance 70 films plus genrés, je dis pas horreur, hein, je dis vraiment juste genrés, un peu plus fat, un peu plus fat en mise en scène, en truc où on va aller essayer de travailler plein de choses, parce que pour moi le genre c'est une définition qui est ultra bizarre. Tous mes courts-métrages, on dit qu'ils sont genre, mais j'ai fait tellement de trucs différents que c'est juste un amour de l'image, du son et du craft, quoi. Si on en fait 70, il y en aura 5 qui vont péter, il y aura plus de règne animal et de choses comme ça qui dépassent le million en France, je pense, ouais.
Et en même temps, on n'est pas non plus dans un discours de il faut soutenir. Mais par contre, franchement, venez voir le film, je vous jure, ça peut vous faire kiffer, quoi. On est vraiment dans un truc de pur rapport créateur-spectateur, quoi. Genre, nous, on a mis du cœur à ça. Allez juste voir le film et en vrai vous avez le droit de détester, mais honnêtement on a essayé d'enlever vos a priori parce que on l'a écrit presque avec les mêmes a priori, enfin en réfléchissant aux a priori qu'on va avoir le spectateur, ouais. En se disant ok, et même nous des trucs qu'on a pu penser de certains films, ok, qu'est-ce qu'on a pas aimé. Il parlait du fait que des fois on voit pas assez la bête, on se dit il y a des films de genre mais on voit pas beaucoup le monstre. C'est marrant, Alexandre Aja, je crois que c'est dans un truc Combini qui disait ça, il disait ça marchait très bien à l'époque des Dents de la Mer ou d'Alien, mais aujourd'hui lui quand il a fait Crawl, il dit tout le monde sait à quoi ressemble un crocodile, donc je vais pas le dissimuler, quoi, parce que les gens ils savent. Et c'était pareil avec les araignées, de dire mais en fait on sait à quoi ressemble une araignée, donc on va pas s'amuser à la cacher ou des trucs comme ça. Et donc voilà, nous tout ça on l'avait vraiment en tête à l'écriture, il l'a eu en tête au tournage, au montage, jusqu'à la fin. Donc on est vraiment des passionnés et des amoureux du genre, mais qui l'avons fait pour le plus grand public possible, parce qu'on est d'abord le grand public.
Et donc justement, le film, vous l'accompagnez, vous avez fait une grande tournée d'avant-première en province, à Paris, un peu partout en France. Et moi, j'ai l'impression, alors c'est peut-être un peu biaisé par le prisme des réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que le public est toujours là. Moi, je l'ai vu au PIF, c'était complet. J'ai l'impression qu'il y a une effervescence autour du film. Vous l'avez ressenti comment, ce premier contact avec le public?
Déjà, c'était trop cool de la part de nos distributeurs d'avoir envie de nous laisser le défendre comme on défend, encore une fois, une comédie ou un truc comme ça. C'est plutôt pour ce genre de film qu'on fait une tournée pour aller à la rencontre du public. Ça coûte cher, faut déplacer des gens, les hôtels, tout ça. Donc c'est vraiment un truc où ils se disent on y croit et on veut le défendre et montrer que c'est un film grand public. Donc ça c'est trop cool, et on a pu aller à la rencontre de gens. Il y a toujours le public est divisé en plusieurs parties, dont une qui n'est pas du tout spectatrice de films de genre, et qui vient à la fin de la projo pour nous dire je suis très surpris, je m'attendais pas à ça, moi je suis pas trop horreur, machin, et qui sont très satisfaits par le truc. Donc pour moi c'était capital, moi pareil, juste j'aime bien les films d'horreur, mais je suis pas non plus fan hardcore, de montrer que le film n'est pas ça, quoi, genre c'est vraiment un film grand public. Donc ça nous permet de défendre ça, et ça permet ces gens-là de dire aussi à leur entourage vas-y, parce que moi j'ai kiffé, pourtant c'est pas que de l'horreur. Donc ça permet cet effet bouche à oreille dont toi tu parlais aussi, parce que je pense que le film va être vraiment tributaire de ce bouche à oreille, parce que voilà, ça reste un film qui est vendu comme un film d'horreur, une affiche qui fait quand même qui peut faire peur, tout est là pour te dire tu vas flipper, et faut se boucher oreille pour comprendre mais il y a ça et ça en plus, d'où l'importance de la tournée d'avant-première, quoi.
Oui. Puis après moi j'ai pas participé à la tournée d'avant-première, mais effectivement moi c'est à l'Étrange Festival où j'avais été super touché, parce qu'on a eu une longue applause, quoi, sur tout le générique de fin. Et c'est aussi un public qui peut être, c'est des vrais gens fans, quoi. Donc s'ils aiment pas, ils aiment pas, quoi. Enfin,
c'est ce que tu disais au PIF. Ouais. Tu disais, on est un peu face à des gens habitués et c'est peut-être plus difficile à faire.
C'est-à-dire qu'ils aiment, donc ils sont chaleureux. Et puis en plus, il y a un vrai truc, pour le coup, d'avoir envie qu'il y en ait d'autres et de soutenir, et même des fois d'envie d'en faire, tu vois. Donc ils se disent, ce serait cool que ça marche, parce que ça, c'est vrai. Hein. Enfin, nous, on a été, on parle beaucoup d'Alexandre Aja parce que, c'est ce qui nous a aussi aidé. Si aujourd'hui on fait des films, c'est grâce aussi aux anciens qu'on fait les French Frayeurs, trucs comme ça. Enfin, moi j'ai vu ces trucs là à la télé, ça m'a donné envie de faire des trucs comme ça. Et donc on sent qu'il y a ça, mais à côté de ça c'est aussi des gens qui ont les codes, qui en voient beaucoup, qui en voient des très bien, qui en voient pas que des Américains, qui voient des trucs européens que vous en l'occurrence souvent vous voyez, mais que disons la plus grande majorité des gens ne voient pas, donc ils diguent beaucoup. Et quand eux disent bien joué, bah ça fait plaisir quoi. On se dit bon cool, on a respecté les gens dont on fait partie quoi. C'est presque comme décevoir ta famille quoi. Tu te dis ouais, si eux ils aiment pas là, vraiment on est mal barré parce que putain, nous on a vraiment voulu, on pensait faire partie de votre groupe quoi. Mais ouais, et ça c'était mortel quoi. Et puis moi c'est rigolo parce que j'ai effectivement, moi j'ai plus un bagage de comédie. Enfin j'en ai écrit beaucoup. J'ai fait des trucs genre La Flamme qui sont rien à voir, qui sont vraiment très absurdes. Et pareil, c'est pas forcément des fans de genre, mais il y a la petite porte Jérôme Niel où il y a et en fait on les prend par la main parce qu'en fait il y a une scène au début d'ouverture horrifique et après on a quand même un bon 15 minutes où on présente des persos et ça aide beaucoup les gens à se mettre dans le bain et donc ça c'est cool. C'est encore une fois, c'est pas pour se pincer le nez en disant vous inquiétez pas, c'est pas un vrai film d'horreur. C'est un vrai film d'horreur, mais effectivement on sent ces gens qui n'en consomment pas forcément toujours, qui sont touchés par ce truc là quoi. Donc ça me fait plaisir, ça m'a fait penser, je suis allé voir Vincent Doit Mourir au cinéma, il y avait beaucoup de vieux et je pense que c'était des gens qui allaient voir tout et à la fin ils étaient méga contents et il y avait un peu ce truc là où ils avaient été pris par la main parce qu'il y avait Karim Leclou, parce que c'est allé à Cannes je crois, des choses comme ça, et ils ressortent en disant oh, putain c'est un film vénère bourrin, et ils ont kiffé quoi.
Et tu leur mets une scène de caca et
ouais voilà c'est ça, et ça se bat dans la merde pendant 15 minutes et ça fait plaisir. Non mais voilà, et donc voilà, j'espère que on aura cet effet là aussi avec Vermine quoi.
Ouais, peut-être dernière question, après Vermine, bon, qui vient juste de sortir, mais j'imagine qu'évidemment vous pensez à la suite. C'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Alien 6, du coup. Non, on bosse toujours avec Flo. Le film a pas mal fonctionné, en tout cas à buzzé, il n'est pas encore sorti, mais aux États-Unis. Donc il y a eu l'appel traditionnel de des Américains qui arrivent très agressifs très vite, auxquels il a fallu rester bas sur les appuis parce qu'on sait comment ils sont et il faut esquiver les propositions qui tombent très vite de films Blumhouse et tout et qui sont pas forcément là où tu veux aller mais qui sont entre guillemets alléchantes parce qu'on se dit waouh, j'ai accès à tout ça.
Ils sont excitantes en vrai.
Ils sont excitantes de fou, mais un truc de rester vraiment les pieds sur terre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, comment j'ai envie, à où je veux aller, etc. Déjà moi envie de continuer de bosser avec les mêmes personnes, etc. Donc déjà ça enlève beaucoup de gens quand on leur dit ouais mais je peux bosser avec mes potes, je peux coécrire avec mon pote, je peux faire ci, je peux faire ma post prod enfance, ça enlève vraiment un bon 70%. Et après, au milieu de tout ça, restent des choses très intéressantes sur lesquelles forcément on avance avec Flo. Et on a bien sûr qui sont vraiment intrinsèquement, quoi qu'il arrive, liés à la France. On a toujours ce qu'il faut de français, notre savoir-faire, nos personnages. On a un truc qui est vraiment profondément amoureux de notre pays, donc qui reste là quoi qu'il arrive dans le craft et dans l'écriture. Et projet 100% français pour le coup. Malgré, c'est vrai, les propositions et le fait que même des studios sont là à nous dire mais on peut juste financer nous si vous voulez votre idée originale, il y a un truc de ouais mais me baser sur des personnages qui vont parler en anglais de toute manière, ça va être une façon de réfléchir que j'ai pas encore, et donc du coup des projets 100% français. On reste dans le genre, si on peut appeler ça comme ça. On reste sur des personnages très ordinaires à qui va arriver quelque chose d'extraordinaire, qui vont devoir se battre pour leur famille, leurs amis, pour leur vie, avec des enjeux très très hauts. Et voilà, en fait, on veut juste doubler Vermine, on veut faire Vermine plus, on veut continuer à gravir les échelons, mais on dépend aussi bien sûr de ce que Vermine donne en salle. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais en tout cas, on s'amuse bien, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Il a tout dit. Pas grand chose d'autre à dire. En tout cas, moi, je suis très content de pouvoir continuer avec Sébastien. Je me vois pas faire ça avec un milliard de personnes. Je trouve qu'on s'est bien trouvé. Je sais ce qu'il aime bien chez moi. Je sais ce que j'aime chez lui. Et moi, je réalise plutôt des comédies en France. J'en ai une qui sort en avril et tout. Donc, c'est différent. Et j'aime bien avoir cette possibilité, ce choix, de me dire, de temps en temps, je peux écrire des trucs horrifiques avec Seb. Et donc là, on est à fond là-dessus. Pour un potentiel nouveau projet, mais là voilà, on va vous quitter, on va se remettre dessus, donc voilà, on bosse à fond là-dessus en ce moment et on espère que ça va aller au bout.
Monster Squad. Bah, merci d'être venu. Cool. Du coup, Vermine est sorti en salle ce 27 décembre.
Ça a cartonné, la première journée était
ouais,
folle.
Ouais.
Les chiffres,
les Secpas font du ski, ont chialé.
Donc ouais voilà, allez voir le film en salle. C'est vrai que nous c'est un film qu'on a tous aimé chez Capture Max, qui est assez rare déjà qu'on soit
ouais,
d'accord.
Faut le savoir, ouais.
On aime, mais je le sais. Je sais que moi je flippais un peu et je me suis dit.
Il a écouté un épisode, il était cool, terrifié.
C'est cool, je fais ça plutôt, ça va. Non mais en plus, Enfin, voilà, c'est une sorte d'adoubement aussi.
Non, mais c'est vrai que nous, c'est rare qu'on aime un film, qu'on soit tous d'accord, et surtout quand c'est un film de genre et quand c'est un film français. Enfin, il réunissait toutes les caractéristiques pour qu'on soit pas, à minima, pas d'accord. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on l'a tous aimé, même les personnes qui sont pas là aujourd'hui, mais l'équipe de Sale Temps pour un film, il y en a pas mal qui l'ont vu et qui l'ont aimé. Donc,
apprécié, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, allez le voir en salle, parce que c'est vraiment un film incroyable. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Monster Squad. Salut.
Merci.
Salut.
Merci beaucoup. Yeah!